Merci beaucoup. Nous allons passer à l'exposé d'après. Et je dirais que le menu de midi m'offre une transition toute faite, puisque en entrée, vous avez mangé de la truite. Donc, l'exposé suivant va porter sur la génétique des truites dans les Pyrénées ariégeoises. Il va vous être présenté par Laurent Garmandia, qui est directeur de la Fédération de l'Ariège de pêche et de protection des milieux aquatiques. Donc, la Fédération de pêche a notamment pour mission de protéger les milieux aquatiques et de surveiller le domaine piscicole départemental. Et à ce titre, la Fédération est amenée à mener certaines études, dont celle-là qui va effectivement vous être présentée, pour avoir une meilleure connaissance des populations de poissons, pour comprendre du coup comment fonctionnent les cours d'eau et en avoir des plans de gestion adaptés. Donc je vais laisser Laurent Garmandia vous expliquer comment la génétique a permis d'améliorer la connaissance sur les populations de truites. Et je pense que dans quelques minutes, vous saurez tout sur les truites domestiques et les truites sauvages.
Merci pour ta présentation sur les lacs. On va faire un enchaînement qui est vraiment à propos. Donc nous allons traiter un sujet qui est fondamental, principal pour la vie et l'économie du massif pyrénéen. Alors ce sujet, il est particulier parce qu'il touche à la mythologie. En même temps, on pourrait dire qu'en touchant la mythologie, il va aussi à l'encontre de ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est-à-dire une journée scientifique. Mythologie, science parfois, ça pourrait se rapprocher en science de l'évolution. Alors ce sujet, c'est la truite fario. Alors la truite fario, c'est une espèce à laquelle sont rattachés de nombreux symboles. Le symbole des eaux vives, des eaux pures, et le symbole de la lutte principalement dans le contre-courant. Il y a des pêcheurs dans la salle ici, il y a 10% de la population active ariégeoise qui prend une carte de pêche, donc je suis sûr qu'il y a des pêcheurs dans la salle. Et je peux vous garantir que pour ces pêcheurs, ils ont rêvé plusieurs fois dans leur vie de prendre une truite sauvage des torrents pyrénéens. Et nous allons essayer de voir s'il reste des truites sauvages, après l'exposé de Didier. Y en reste-t-il ? Peut-être pas. Parce qu'on a fait de grosses bêtises, vous l'avez vu, à partir des années 50. Et c'est tout l'intérêt de cette présentation et de l'enjeu des connaissances. Donc vous voyez, les partenaires financiers sont nombreux sur ce type d'études. Alors, on parle de la truite dans nos massifs, mais la truite, c'est un terme qui est réducteur à l'extrême. Même pour vous, consommateurs, si vous allez dans la poissonnerie ou si vous êtes pêcheur, au niveau des torrents pyrénéens, vous allez constater d'énormes disparités. Pour bien la comprendre, il faut pénétrer le monde de la classification de la phylogénie. La truite, c'est quoi ? C'est un vertébré, c'est un poisson osseux, il pourrait être cartilagineux, les requins sont cartilagineux. C'est un poisson osseux, il est dit téléostéen, sa mâchoire supérieure est mobile, il appartient à la noblesse, entre guillemets, la famille des salmonidés, et surtout il appartient au genre salmon. Et dans ce genre salmon, vous avez un cousin extraordinaire, emblématique, pour le coup le symbole du contre-courant, l'espèce salmo salar, le saumon atlantique. Et vous pouvez encore voir du saumon sur l'axe Ariège, si vous allez à Varilhes, dans un mois à peu près, vous verrez le programme de restauration sur l'Ariège avec des frayères, des saumons en train de ferrier au niveau de Crampagne à Varilhes encore aujourd'hui. Vous, consommateurs, la plupart du temps, quand vous consommez des poissons, vous consommez cette truite. Achetée sur les étals, c'est la truite arc-en-ciel. Au sens de cette présentation, ce n'est pas une truite, elle appartient pas au genre salmon, mais au genre Ocorhynchus. Alors, on va rentrer dans cette arborescence, dans la classification, et on va se concentrer sur ce genre salmon. Des truites, il n'en existe qu'une seule espèce, Salmo truta. Mais il existe trois grandes formes. La Salmo truta fario, celle qui nous intéresse, la truite fario de rivière, la Salmo truta lacustris et la Salmo truta, la truite de mer. Aucune différence génétique entre ces trois formes. Donc une seule espèce, pas de différence génétique, mais des formes différentes. Et puis on rentre dans la classification, nous voilà au bout de la branche. On va s'intéresser à la truite fario de rivière. Et c'est là que ça devient intéressant. On distingue quatre lignées génétiques bien distinctes. La première, c'est l'ancestrale, apparue avant le quaternaire, 2,5 millions d'années, c'est-à-dire avant les dernières glaciations. Souvenez-vous, on en a parlé, les glaciations, la dernière démarre il y a 115 000 ans, elle s'arrête à peu près il y a 15 000 ans. Nous sommes dans un âge interglaciaire aujourd'hui. Cette truite colonisait l'ensemble du territoire. On l'appelle la tigrée. Il y a 15 000 ans, arrive de l'Atlantique Nord, une espèce de viking de la mer Baltique, arrive l'Atlantique moderne, à laquelle se rattachent toutes les souches de pisciculture. C'est important, on y reviendra plus tard. C'est la forme que vous retrouvez à peu près dans nos cours d'eau, sur le bassin versant atlantique. si on change d'exutoire et que nous nous retrouvons en Méditerranée, nous avons la méditerranéenne, les trois bandes Adidas, comme on les nomme dans le milieu. Et vous avez ma préférée, l'ancestrale corse, là aussi. Vous allez voir, on dirait un dinosaure du Jurassique. Extraordinaire poisson, une marque operculaire ici bleutée et ses points orange qui ne sont pas refaits sous Photoshop. Alors, l'accumulation des connaissances sur la génétique et surtout sur la morphologie montre que nos truites ancestrales, rappelez-vous la première diapositive, la fameuse tigrée, on ne la retrouve aujourd'hui que dans les zones apicales du réseau, au bout du bout du bout du ruisseau, dans des endroits perdus, isolés du reste, c'est là que nous trouvons nos ancestrales. Et en dessous, nous retrouvons nos Atlantiques modernes. Deux chercheurs très connus dans le milieu, Ferguson et Fleming, émettent une hypothèse qui tient encore la route. Pour eux, l'histoire, elle est relativement simple. Nos truites ancestrales colonisent tout le réseau hydrographique avant le Quaternaire. La glaciation arrive il y a 115 000 ans. Il ne reste plus qu'en eau libre que le sud-ouest de l'Irlande, le sud de l'Angleterre et le pourtour méditerranéen. La glaciation dure, il reste donc des poches colonisées par l'ancestral. Et la fonte arrive. La fonte relibère les zones, nos truites se répartissent. Mais en même temps, il y a 15 000 ans, arrive notre Viking, notre Atlantique Nord, qui se mélange avec ses populations ancestrales dans les cours d'eau. Et là se passe ce qu'on appelle la dominance des allèles d'une espèce sur l'autre. C'est-à-dire quand les populations se mélangent entre elles, les gènes de l'Atlantique moderne surpassent les gènes de l'ancestral. Dès que les populations se rencontrent, ne subsiste plus que l'Atlantique moderne qui disparaît petit à petit. L'ancestral disparaît petit à petit au profit de l'Atlantique moderne. On ne retrouve plus aujourd'hui que des ancestrales dans les zones où il n'y a pas eu de contact entre ces deux espèces. C'est ce qu'on appelle la dominance des allèles. Voilà pour la partie naturelle. Alors je vais aller vite parce que ça a été exposé remarquablement précédemment. La partie naturelle, elle est là. Des ancestrales en haut, dans des endroits un peu isolés, des Atlantiques modernes en bas. Malheureusement, ou je ne sais pas, heureusement, je sais, ça dépend comment il faut le voir, l'État a confié aux associations la gestion piscicole. Et l'État a lancé tout un programme sur la base de cet axiome, c'est-à-dire la nature ne pouvant pas compenser tous ses prélèvements, il va falloir déverser des poissons dans les cours d'eau. Et il va falloir en déverser massivement. Donc des programmes très très lourds d'investissement en pisciculture sont lancés. Vous imaginez, salariés, poissons, achats, tous les stades, des œufs. C'est ce que j'appelle le temps du tout et partout. Il faut s'imaginer que nous avons déversé partout, à dos d'homme, à dos d'âne, ce que vous voulez, en altitude, tous les poissons issus de la souche atlantique moderne, la danoise. Donc, truite de la mer Baltique, que l'on appelait la danoise. Voilà, ces souches provenant d'Europe du Nord, sous conseil d'organismes d'État. Il n'est pas question à l'époque d'évaluation ou quoi que ce soit, on n'est pas bien que la science moderne soit plus ancienne que ça, mais on n'évalue rien du tout et on continue de déverser. Et puis, certaines personnes dans les fédérations commencent quand même à se poser quelques questions et à remettre en doute ces pratiques, en tout cas, à s'apercevoir que ça ne fonctionne pas comme on le pensait, donc... On est jusqu'au boutiste dans la logique, et surtout parce que les investissements sont faits en pisciculture. Mais qu'est-ce qu'on dit? Si les truites d'Europe du Nord, nos fameuses danoises, ne marchent pas bien, eh bien on va les croiser avec des géniteurs locaux. Donc on va en montagne, on prend des géniteurs, on les met en pisciculture, et on obtient l'oxymore parfait, la truite sauvage de pisciculture. Le non-sens absolu. Donc ça ne peut pas marcher, évidemment. Au milieu des années 90, les interrogations sont toujours présentes, les alvinages continuent parce que les salariés sont présents, il faut bien faire quelque chose avec les piscicultures, on continue. Heureusement, l'État intervient et au milieu des années 90, il impose aux fédérations de réaliser des plans de gestion piscicole. Arrive le temps de la professionnalisation, des hydrobiologistes sont embauchés et on rentre dans les mécanismes de la science moderne qui sont l'observation, l'expérimentation et la répétition. Et on arrive effectivement à des conclusions qui sont relativement simples, mais s'il va falloir que ce soit la réalité écologique qui doit dicter les actions. Si le milieu peut produire des poissons, ce n'est pas la peine d'en deviner. Le paradigme est sévère. Il remet en cause, en même pas 10 ans, plus de 50 ans de pratique, de fonctionnement. Et vous imaginez que les débats ont été brutaux au milieu des années 90. En Ariège, les pionniers se trouvent sur le Garbette. Ils passent en gestion patrimoniale, c'est-à-dire ils arrêtent tous les alevinages au milieu des années 90. 27 ans plus tard, en 2017, on peut dire aujourd'hui que sur le territoire du PNR, nous avons quasiment arrêté tous les alevinages. Les seuls poissons déversés sont des poissons stériles faits pour des fêtes de village, pour que les pêcheurs prennent facilement un poisson et pour qu'ils puissent s'éduquer à la pêche, parce que prendre une truite sauvage aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Bien sûr, arrive le temps de la connaissance et des enjeux. Quelle est la lignée des truites? A-t-on altéré la souche sauvage par les alevinages? N'y aurait-il pas plusieurs souches sauvages? Peut-on aborder l'idée même de la cartographie génétique à l'échelle du massif avec nos collègues des autres fédérations? Est-ce que cela peut déboucher sur des classements réglementaires en vue de protéger nos derniers cours d'eau de micro-centrales, par exemple, ou d'autres facteurs anthropiques qui pourraient les perturber? Sur la Fédération de pêche de l'Ariège, si vous allez sur le site internet et vous lancez la carte interactive, vous trouverez toutes les stations analysées. Elles sont 42 depuis 2008 pour 134 000 euros. Ça reste encore très cher de faire des analyses génétiques. Je vais passer très vite sur le matériel et méthode. On parle de génétique, donc on parle d'un gène. Un gène, vous le savez, c'est dans une cellule, dans un noyau. Ça code des protéines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prélève des bouts de nageoire. On utilise des marqueurs qui sont tripolymorphes, c'est-à-dire qui réagissent très bien à l'isolement des populations. Un bout de nageoire. Et ensuite, on fait des analyses statistiques assez poussées pour essayer de différencier les populations entre elles. Alors, la génétique, c'est une chose, mais communiquer sur des résultats génétiques, c'est quand même pas simple. Donc, on croise avec des analyses morphologiques. C'est Jean-Marc Lascaux qui a mis cette méthode au point dans les années 90. Et ce qui nous permet aujourd'hui, sur un point génétique, d'avoir une photographie de l'individu, puisque les ornementations des truites, ce qui fait aussi leur beauté, tous ces points, vous voyez, ces franges blanches, ces franges anales sur l'adipeuse, sur la dorsale, ces ocelles, ces points rouges, ces points noirs, tout ça sont l'expression des gènes. On passe sur la méthode, on récupère 30 poissons par station, on les met dans un aquarium avec une tridimensionnelle, on fait des photos et ensuite on va compter truite par truite, tous ces points, toutes ces franges. On va faire de puissantes analyses statistiques, 40 500 données à traiter à l'échelle de l'Ariège et on obtient des résultats intéressants. Les stations d'études dont on va parler ici sont sur le territoire du PNR. Vous voyez ici, c'est la tête du Salat avec l'Alette et avec le Garbette. Vous avez ici les deux des grandes dernières rivières sauvages des Pyrénées, le Haut-Salat, quasiment pas de micro-centrale, quasiment pas de barrage, l'Alette, une seule micro-centrale. Donc un territoire qui est vraiment particulier au regard de ce qui reste en termes de d'eau libre sur le massif pyrénéen. Les critères de sélection des stations, vous l'avez compris, c'est l'isolement géographique, très important, l'accès à la station, bien sûr, la configuration géographique, est-on proche d'une source, d'une confluence? Les facteurs anthropiques, alevinage, évidemment. Les truites sont prélevées par pêche électrique. Parfois, l'eau est tellement pure en montagne que la pêche électrique ne marche pas, donc il faut les pêcher à la ligne. Voilà ce qui nous intéresse, les résultats. À gauche, voici nos truites, nos souches de pisciculture, la fameuse danoise, auxquelles on a rajouté les piscicultures de l'Ariège. Vous voyez l'affinité évidente entre la souche INRA nationale, issue des truites atlantiques modernes, et nos truites, bien que croisées avec des géniteurs de haute montagne, vous voyez qu'il y a une affinité très forte entre ces poissons. Quand on projette les résultats du Salat, du Garbette, de l'Alette, vous voyez qu'on a une différenciation qui est nette avec les truites de pisciculture. Ça veut dire qu'on a des truites qui sont préservées des gènes domestiques. Parfois, vous le voyez ici, on a quelques petits points qui se rajoutent, on a des hybrides. Là, on a un bel hybride, par exemple, qui vient se rapprocher des truites de pisciculture. Donc sur les axes principaux, c'est très surprenant parce que c'est là où on a déversé le plus de poissons, on n'a quasiment pas d'impact. Maintenant, quand on rajoute certains ruisseaux, là, en revanche, on voit que les truites domestiques ont pris le pas sur les génomes de truites de certains ruisseaux. Alors ces ruisseaux, quels sont-ils? Vous allez voir ici, on regarde la première colonne, la colonne des domestiques, vous voyez que les pourcentages de gènes domestiques sont quasiment absents sur le Salat, absents sur l'Alette, absents sur le Garbette. Et sur le ruisseau d'Angouls, de Rouze et d'Ossèze, nous avons majoritairement des truites de pisciculture, issues de nos déversements. À l'échelle du département, nous n'avons sur 42 stations, il n'y en a que 5 qui comptent des truites majoritairement de pisciculture. Le ruisseau de Siscar, sur la Haute-Ariège, et la bruyante au niveau de la restanque. Tout le reste, vous voyez ici, on a une intégrité génétique qui est quasiment totalement préservée. On peut juste rajouter que c'est une excellente nouvelle, c'est la chance. On aurait pu détruire quasiment tout le patrimoine génétique de ces truites, différencié parfois depuis 2,5 millions d'années ou 15 000 ans. Par chance, ce n'est pas le cas. Maintenant, on va se concentrer sur des truites à l'intégrité génétique peu ou pas altérée. On va aller sur le bassin versant du Garbette. Quand on projette ces truites, vous voyez que la majorité des truites, que ce soit sur tous ces cours d'eau, Garbette, le ruisseau d'Ars, le Fouillette, l'Estagette, vous voyez qu'on est autour d'une position médiane. Tous les points se mélangent ici, la position médiane, la voilà. Et vous voyez qu'il y a deux stations, ici, qui se séparent de cette position médiane. Ces deux stations qui se différencient, c'est la tête du Garbette en montagne et le ruisseau de l'Estagette. Alors ces stations, elles présentent une pureté sauvage, une composition génétique différente. Il faut comprendre cela au travers de ce qu'on appelle le taux d'hétérozygosie. Alors qu'est-ce que ce mot barbare ? Le taux d'hétérozygosie, l'hétérozygosie, c'est le garant de l'adaptation. Plus une population est brassée amont-aval génétiquement, c'est-à-dire plus elle reçoit des poissons qui dévalent d'autre part, qui viennent frayer, qui viennent se mélanger, plus la population sera vaste génétiquement, elle sera riche en génome et elle sera à même de répondre à des bouleversements environnementaux. Plus ce taux d'hétérozygosie est faible, plus on a une population petite et isolée et plus la population est fragilisée. Et donc ici, nous avons des taux d'hétérozygosie qui sont faibles sur le Garbette en amont ici, 0,55, et sur le ruisseau de l'Estagette. Quand on regarde la morphologie de ces truites, on s'aperçoit que le morphotype moyen, le voilà. Vous avez ces caractéristiques ici, toutes les flèches. Ponctuation rouge et noir, des franges blanches et noires, on a joueur pelvienne, anal, dorsal, un liséré rouge bien marqué et une tache operculaire bien marquée. Ça, c'est le morphotype moyen, l'Atlantique moderne. Voilà nos amis de Garbettou ici. Intégrité génétique à 99%. Une livrée de points rouges, tout petit, qui n'a plus rien à voir avec la truite précédente. Continuons sur le ruisseau de l'Estagette. Intégrité génétique 97%. Nous allons aller sur le ruisseau de l'Ars. Sur l'Ars, nous avons un peu d'introgression. Vous avez cette espèce d'animal extraordinaire en haut, qui constitue la base, la souche initiale de l'Ars. Et vous avez, en bas, un hybride particulier. Vous voyez que sur un fond très ponctué de noir au départ, on peut penser qu'on a intégré, alors par la pisciculture ou par le changement de truite de bassin versant, un fond un peu plus ponctué de rouge ici. Donc on trouve un mélange de ces deux truites là-haut. Le scénario probable est le suivant. Donc bien sûr, alors je viens de le dire, l'existence de ces robes fait penser à une intervention humaine, probablement ancienne. Alors la question de base que l'on pose aux généticiens pour laquelle ils ont beaucoup de mal à donner une réponse, c'est: est-ce que la population introgressée va arriver à expulser ses gènes domestiques et à quelle vitesse? En théorie, il est probable que la population initiale soit perdue, que la population repeuplée ne soit pas capable de retrouver sa composition d'origine. Nous voilà sur l'O16, quasiment peuplée de gènes domestiques, et voilà la truite de l'O16, avec les caractéristiques classiques de la pisciculture que vous avez ici. Quasiment pas de points sur l'opercule, des gros points relativement à la taille du poisson. Et on n'est pas du tout sur les mêmes phénotypes. Donc en résumé, nous avons sur le département des truites classiques du bassin versant atlantique, la fameuse danoise qui est venue chasser nos truites ancestrales. Je vous ai rajouté quand même l'exception faite de l'enclave du Kérigut. Vous savez qu'on a une partie du territoire qui se jette dans l'Aude, la Bruyante. Et là-dessus, donc, on doit s'attendre à trouver des truites méditerranéennes. Et regardez cette truite extraordinaire. Voilà ce que l'on trouve sur la Bruyante, sur le bassin méditerranéen, une souche méditerranéenne qui n'est pas introgressée. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, je vais anticiper une question qui serait une question un peu tordue, qui serait de dire, si on a des ancestrales sur l'Estagette, le Garbette, finalement, pourquoi elles sont différentes? Elles sont ancestrales, pourquoi elles sont différentes? Et c'est là qu'intervient les sciences de l'évolution. Pour moitié-moitié, ça provient d'un mécanisme qu'on appelle la dérive génétique. La dérive génétique, c'est l'évolution d'une espèce causée par le hasard. C'est un peu comme si nous, ici, on prélevait, avec un sexe ratio d'un homme pour une femme, on prélevait 10 personnes, on nous envoyait sur Mars pendant 10 000 ans. On est pris au hasard, on va emporter avec nous un patrimoine génétique, des avantages, des maladies. nous allons peut-être pas représenter la salle. Et au bout de 1000 ans, avec une adaptation au biotope, nous allons nous différencier. C'est l'histoire du pinson des Galapagos, si vous connaissez, un phénomène de spéciation classique. Donc nous allons partir avec nos mutations, qui probablement ne correspondent pas aux mutations de la salle, aux poules de la salle. Et à la fin, ça se traduit par des profils génotypiques, alléliques, phénotypiques différents. Notre population fondatrice sera différente de la population mère. C'est ce qui se passe sur ces secteurs qui sont totalement isolés. Voilà le scénario probable. Nous aurions des truites ancestrales préservées du contact avec notre viking danois qui a colonisé tout l'espace ouvert. Donc bien évidemment, on parlait de disparité en introduction. Il n'y a pas une truite commune, mais des populations différenciées. Vous les voyez ici. Toutes présentant une intégrité génétique, sans gène ici de poissons de pisciculture. On va quand même signaler que ces faibles introgressions, elles existent. Elles sont tout de même une atteinte à la diversité naturelle de la truite. Cette diversité, on l'a vu au travers du taux d'hétérozygosie, elle est garante des capacités d'adaptation de l'espèce au changement. Et pour le coup, au changement, nous sommes en plein dedans, puisque nous avons des températures de cours d'eau qui rencontrent des valeurs que nous n'avons jamais vues depuis une vingtaine d'années. Donc il va falloir que tous ces poissons s'adaptent, et malheureusement, ils ne vont pas le faire en 10 ans. Et ils vont conclure par une belle truite trigrée du gave de Pau. Voilà, j'en ai fini dans les temps, j'espère.
Effectivement, bravo pour le timing.
Merci.